Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Il faut noter que le ministre congolais des ressources hydrauliques a récemment annoncé le démarrage de la construction du barrage hydroélectrique d'Inga 3 pour le mois d'octobre 2015. Bruno Kapangé a en outre précisé que le barrage produira 4700 MW et devra permettre d'améliorer le taux de desserte nationale en électricité aujourd'hui évalué à 6%. Mais seulement pendant que s'est fait l'étude complémentaire de faisabilité financée par la Banque africain de développement, bat d'un sigle dans les cas de ce projet. Certaines ONG américaines s'opposent au financement de la construction de ces barrages, évoquant ainsi l'impact environnemental. Comment commentez-vous cette actualité? Patrick, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Oui, Patrick, vous êtes avec nous?
Oui, je suis. Nous sommes ensemble. Bonjour.
Voilà, vous êtes ensemble. Avec qui, Patrick? Voilà, donc il y a pratiquement une confusion. On a senti qu'il y avait deux lignes qui étaient vraiment ouvertes. Bon, voilà, Patrick, vous êtes avec nous. Bonjour.
Merci, on est ensemble, les Radio Capi.
Merci beaucoup.
Juste,
et bonne arrivée sur les ondes.
Par rapport au sujet du jour, je crois l'autre fois, une fois était revenue encore au débat, donc à la radio, et le point de vue que nous avons émis l'autre jour, nous sentons que jusque-là, il n'y a pas une considération de nos points de vue que nous émettons toujours. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons toujours à émettre nos points de vue. Et j'ai une préoccupation portant sur, ou qui se base sur l'impact de la construction de cette barrage, hein, sur le plan économique du pays, sur le plan hydro et électrolytique ou sur le plan énergétique, vous voulez dire. Bien sûr, cette barrage sera construite. Est-ce que son impact sur le plan économique a été bien évalué? Parce que nous savons qu'il y a Inga 1 et Inga 2 jusque-là. Et Inga 1 et Inga 2 jusque-là sont incapables de produire l'énergie électrique qui va alimenter, qui va couvrir les besoins de la population en général. Non seulement ça, est-ce que le barrage qui sera construit sera en mesure de le faire au moment où les deux barrages n'ont pas su le faire? Je trouve que c'est pratiquement difficile. Mais le problème c'est quoi? Sur le plan économique, nous voyons qu'il y a la production de l'énergie, il y a la vente de l'énergie, mais jusque-là, l'argent produit par le courant électrique ou la vente de l'énergie reste toujours insignifiant sur le budget national. Que ce soit l'argent produit au niveau du pays, que ce soit l'argent produit au niveau de l'extérieur ou d'autres pays. Il y a d'autres pays qui nous achètent du courant électrique, mais cet argent est quasiment absent sur le budget national. Et on s'est dit, est-ce que cette barrage le fera au moment où les deux plus anciennes n'ont pas su le faire? Là, je trouve que, vraiment, messieurs les journalistes, ce n'est pas encore le moment de construire cette barrage, parce que si on veut exploiter, il y a d'autres domaines qui nécessitent l'exploitation, qui sont prioritaires. Vous savez, bien évidemment que gouverner, c'est prévoir. Or, dans la prévision, il y a des priorités. Nous avons la priorité, messieurs les journalistes. Il y a l'agriculture qui est là, pêche et élevage, il y a les ressources minières, bien que c'est épuisable, mais prenons d'abord le domaine de l'agriculture. On peut aller dans ce sens, produire, parce que cette exploitation, hein, aura de l'impact sur le plan social, hein, de la population congolaise. Mais si on exploite le domaine énergétique. Bon, moi, je trouve que c'est vouloir gonfler les poches des individus. Parce que ce qui est là.
Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Patrick. Voilà, on retient que vous aimeriez bien que le gouvernement, dans sa politique, puisse diversifier un peu de projets de développement, tout en priorisant, bien entendu, ces projets pour permettre à ce que la population puisse se retrouver. Sinon, qui trop embrasse mal étreint. Bon, si je comprends bien votre préoccupation, Patrick, merci beaucoup d'avoir appelé de Lubumbashi. David, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, David.
Bonjour, papa.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Merci beaucoup. Je vous ai entendu par rapport à la construction du barrage Inga 3, qui est nécessaire pour la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général.
Oui, David, commencez d'abord par éteindre votre radio qui est tout près de vous là. Si vous pouvez éteindre votre poste récepteur, ça pourrait nous permettre de nous écouter un peu par téléphone.
Ok, merci beaucoup.
Et allez-y.
Je voulais d'abord poser une question. Les ONG américains qui veulent s'opposer à la construction de ces barrages là, ils ont quelle idée? Tout ça, ça montre que notre pays n'a pas la part autoritaire devant tout autre pays. Notre pays, c'est un pays démocrate. C'est un pays qui doit émerger de bonheur, de la progression de toutes ressources naturelles que Dieu a mis dans ce pays-ci. Alors, nous sommes au moment de voir combien les membres du gouvernement, ou ça c'est le gouvernement en général, aiment le pays. C'est ça, donc là, le moment où le président de la République, d'ailleurs, je le félicite en passant, il a pris des initiatives, en fait, de faire progresser les cinq chantiers. Alors, nous voulons voir la réalité des cinq chantiers-là se réaliser dans notre pays.
Voilà, merci beaucoup. Merci.
Nous voulons faire l'auto prise en charge,
oui,
avec les ressources naturelles, mm-hmm, avec des activités autres qui sont dans notre pays, afin que ces barrages-là soient construits. Ça sera
Voilà, merci beaucoup, David. On va prendre d'abord Mervi qui est à Likasi. Mervi, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Paolo Zéteseur, bonjour à tout le monde. Je suis content de participer à l'émission d'aujourd'hui, mais mon intervention serait axée sur trois points. Le premier point, c'est le point technique. Le deuxième point, le point politique. Et le troisième point, le point communautaire ou de la société. Je commence par le point technique. Je me dis, bon, il y a beaucoup de barrages dans notre pays. Il y a plein de barrages ici au Katanga. Moi, personnellement, j'ai été au barrage de Mwadingusha ici. Mais le constat amer, c'est que le barrage, il est grand. Mais faute de motivation, faute d'ingénieurs, faute de moyens, il y a certains départements dans ce barrage qui ne fonctionnent plus. Mais je me dis, si déjà ici dans le Katanga, nous sommes en train de constater un problème d'énergie, alors qu'il y a déjà un gros barrage, beaucoup de barrages d'ailleurs ici, mais qui ne sont pas tout simplement réhabilités et remis à l'état. Mais moi je me dis, pourquoi ne faut pas commencer par mettre en œuvre ce que nous avons déjà? Pourquoi nous ne devons pas mettre à niveau le barrage que nous avons au Congo? Puisque là je parle du Katanga, mais dans tout le Congo, même le barrage Inga déjà, celui que nous utilisons, il y a une partie qui ne fonctionne pas, alors que nous savons que Inga à lui seul peut déjà fournir l'énergie électrique à tout le Congo et même exporter. Je me dis, pourquoi construire un barrage de plus alors que on ne serait pas à mesure de le faire fonctionner ce qui existe déjà. Le deuxième point est celui lié à la politique. Vous savez, mes frères, les États-Unis d'Amérique, comme tous les autres États bien organisés, ces gens sont des capitalistes et tous ces gens là-bas ne peuvent jamais s'engager dans une histoire où ils ne voient pas leurs intérêts. Voilà au moins des gens qui pensent en étant nationalistes, des gens qui pensent en gardant, en maintenant leurs intérêts, leur ONG. Je veux vous dire que leur ONG ils sont tout simplement animés que par cet esprit de nationalisme où les intérêts américains ne sont pas sauvegardés, ces gens-là n'iront pas. Alors, c'est tout à fait normal que ces ONG-là fonctionnent comme ça. Eux, au moins, fonctionnent pour l'avantage de leur État. Mais ici, nous sommes en train de voir les ONG travailler pour le compte des individus. Pour finir avec l'aspect politique, je dirais tout simplement que Mouvel Brandésiré Kabila a dit qu'il ne trahirait jamais le Congo. Mais dès que nous sommes en train de concevoir, nous avons comme l'impression que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir veulent justement vendre le pays avec des engagements qui ne touchent pas directement la vie sociale et économique du pays. Et pour finir, je voudrais parler du point social.
La communauté.
Oui, voilà. Le point social du Congo, nous sommes là en train de connaître des délestages tous les jours. Tous les jours, en ayant des gros projets dans, des tiroirs de ministres à la présidence et partout là-bas. Et la population n'est qu'en train de souffrir. Je ne sais pas, cet accord, si ça mettrait vraiment un avantage sur la population congolaise, j'encouragerais le gouvernement à chercher même de soutien ailleurs. Pourquoi pas même à l'URSS? Pourquoi pas vers la Chine telle que nous l'avons déjà? Les États-Unis d'Amérique n'est pas le paradis. Si ils ne veulent pas nous soutenir, que le gouvernement se mette vraiment à la place du peuple, qui cherche l'argent, qui pourra bien nous aider, et de manière à ce que nous puissions atteindre nos objectifs, nous ne pouvons pas nous être dans un pays quelconque. Les États-Unis est un État, bien qu'il soit puissant, mais c'est un État comme tous les autres États, et je pense que la meilleure manière de faire pour nos politiciens, ça serait de chercher des moyens au lieu de garder la confiance sur les Américains.
Oui, mais Mervi, il ne faut pas l'oublier non plus que les États-Unis constituent quand même un partenariat traditionnel très privilégié avec la RDC depuis la nuit des temps.
Non, mais mes chers amis, est-ce que je dois vous rappeler combien de fois les États-Unis d'Amérique, combien de fois les multinationaux américains sont cités dans les guerres que nous sommes en train de vivre dans notre pays? Il est question de la politique, mes chers amis, il est question des intérêts. Les États-Unis d'Amérique sont nos amis quand ils respectent nos intérêts. Alors quand ils mettent sous leurs pieds nos intérêts, alors ils sont considérés comme tout autre État, mes chers amis. Il faut voir leurs intérêts. Les Américains poursuivent leurs intérêts. J'aimerais bien que nos politiciens, eux aussi, laissent tomber leurs intérêts individuels, mais qu'ils poursuivent l'intérêt suprême de la nation comme les Américains le font. Américains sont avec nous, nous sommes d'accord. Mais s'ils deviennent contre nous, en tout cas, ils ne sont pas à nos dieux. Hein.
Alors comment réagissez-vous par rapport à la proposition, au fait, suite à cette situation, qu'il y ait un débat au niveau du Parlement pour qu'on puisse réellement dégager des pistes et des solutions pouvant apporter au fait des solutions durables à ces problèmes?
Oui, si il y a aussi un grand souci au niveau de nos parlementaires. Mes très chers amis, je vous dis, notre Parlement, en tout cas, j'ai vraiment l'amer constat de voir que notre Parlement n'est pas celui qu'on pense être réellement. Notre Parlement, il est flexible, il est celui qui ne défend plus que presque pas le peuple congolais. Alors, si seulement notre Parlement peuvent se démarquer de leurs vieilles habitudes, peuvent au moins être objectifs et penser à l'intérêt du pays, nous serons derrière eux et nous allons leur soutenir. Mais si tellement ils vont garder leurs vieilles fétiches, chercher leur argent, chercher par où se faire corrompre, chercher par où, se faire de paradis sur terre, en tout cas là nous serons encore une fois de plus déçus, puisque ces gens-là déjà, ils ne défendent pas le pays.
Merci beaucoup. Mervi, merci d'avoir appelé Delicacy. Et c'est vrai, vous avez apporté quand même cette contribution si riche dans cette émission. Nous gardons en ligne Thomas qui est dans la même ville que vous. Hein. Thomas, vous êtes à Delicacy, restez en ligne. Et au même moment, nous demandons aussi à Kedi Victor, notre invité, de rester en ligne. On va se retrouver dans quelques instants. Nous entamons le dernier quart d'heure de Parole aux auditeurs avec vous, Thomas. Vous êtes à Likassi, Arsène Akikuit. Mais on revient d'abord à notre invité, ingénieur en hydroélectricité, Kendi Victor. Monsieur Kendi, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, joueur.
Voilà, vous avez suivi cette troisième série des auditeurs. D'abord, si on peut commenter leur réaction, en commençant par le tout dernier, Mervi, que nous avons appelé Delicacy, qui, au fait, a l'appel à l'implication de politiques pour que, finalement, ces projets puissent donner de bons résultats.
Oui, j'ai suivi les trois volets de son intervention. Je sais, il est évident, il est connu que l'outil qui existe est mal géré. Nous avons des centrales, vous qu'on a hérité de la colonisation et qui la plupart sont en panne, et même ceux d'autres qu'on a construits après, eh bien, en fait on ne fait jamais des efforts nécessaires. Nous en avons déjà longuement parlé et nous ne pouvons pas s'y attarder. Les politiques, oui, justement, il faut que les politiques comprennent maintenant et quel choix opérer. Les États-Unis, c'est un des partenaires privilégiés de la République de démocratique du Congo de tout le temps, et c'est dans l'ensemble des secteurs. Il n'y a pas qu'en hydroélectricité. D'ailleurs, c'est les États-Unis qui ont construit Inga 1, Inga 2, si on peut bien se rappeler. Et on sait ce qu'était au départ le coût, et à la fin des travaux, ce qu'a été le coût aussi. On le sait aussi. Aujourd'hui, si eux ne savent pas venir avec nous, c'est pas un problème, ça ne gâche rien dans nos relations entre nos deux pays. Ils ont fait un constat, ils ont leurs options, ils ont leurs choix, ils sont libres de le faire.
Bon, voilà, on a des petits soucis avec notre invité. Je crois qu'on pourrait le relancer tout à l'heure. Thomas, vous êtes à Likasi. Thomas, bonjour. Thomas, vous êtes avec nous? Allô, Thomas? Vous êtes déjà en direct sur les ondes de Radio Capi, Thomas. Voilà, il est temps de prendre d'abord Arsène. Arsène est à Kikwite. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur JR.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, pour l'option des Américains, je balaie ça des revers de la main. Les Américains n'ont qu'à s'occuper de leur territoire qui pollue le monde entier, au lieu de voir le Congo. Pour le Congo, je crois que l'option de la construction n'est pas une mauvaise option. Nous en avons déjà. Nous avons construit et nous allons continuer à construire. Mais parlons un peu de la politique, de la programmation de nos travaux et du coût de ces travaux-là. Nous avons l'art de courir toujours à l'extérieur, ce qui réduit notre pouvoir de commandement et notre pouvoir de diriger nos affaires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se fait voir que dans le comportement des non-dirigeants, on dirait qu'il faut toujours courir à l'extérieur pour faire quelque chose de chez nous. Pourtant, nos autorités ont élaboré une loi qui libéralise le secteur de l'électricité. Pourquoi ne pas crier au secours des Congolais à l'intérieur? Le chiffre de 8 milliards de dollars pour construire Inga 3, quel est le chiffre qu'on peut récolter ici si on pouvait ouvrir une marge d'action des contribuables congolais, des actionnaires congolais? Est-ce qu'on n'atteindrait pas un montant conséquent qui peut nous permettre de commencer nos travaux et de partir avec ça pendant une certaine durée, parce que la construction ne prendra pas 2 mois, ça prendra peut-être 5 ans. Ça, c'est du côté construction. Du côté transport de l'énergie, nous avons vu les Américains qui ont construit la ligne Inga-Chaba. On a fait ça en aluminium. Oui, parce que l'aluminium donnait des qualités de sur le poids et le transport facile de l'énergie. Notre invité, là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand il dit nous devons construire pour revendre à l'extérieur, et de l'extérieur nous obtiendrons des montants conséquents pour continuer à construire nos petits barrages. Non, là je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'il faut voir dans l'avenir quelle est la consommation que les Congolais pourraient avoir besoin si vraiment ces géants pouvaient se mettre debout. Nous prenons le cas de chez nous ici, à Kikwite. Nous avons la ligne Inga-Chaba. Nous avons une station ici qui a été disposée pour mettre des transformateurs. Avoir le coût de ce transformateur, ça nous coûtait 900 millions de dollars, approximativement vers 1 milliard de dollars. Alors, on a couru vers la construction Kakobola. Kakobola nous donne près de 20 mégawatts. Alors, moi je me suis dit, on nous donne 20 mégawatts à Kikwite. Aujourd'hui, nous en avons quelque chose comme, prenons 1 mégawatt. Dès qu'on aura le courant régulièrement, quel est l'impact sur l'économie, sur l'industrialisation de cette ville? Est-ce que 5 ans, 10 ans après, le 20 mégawatts suffira? Je ne crois pas. Parce que Kikwite, à quelques kilomètres de Kinshasa, il y aura une population qui va partir de Kinshasa vers Kikwite pour s'investir dans l'agriculture et dans l'industrie agricole. Alors là, nous serons obligés de faire descendre le courant Inga et trouver le 900 millions de dollars pour construire le transformateur. du courant continu vers le courant alternatif que nous allons consommer sur place. Donc, dans notre vision congolaise, nous devons voir les impacts actuels et les impacts à venir. Parce que nul ne peut dire non à l'industrialisation du Congo. Donc, il faut voir vers l'avant. Si aujourd'hui, nos dirigeants témoignent une incompétence dans leur leadership, je crois que demain, nous aurons quand même des dirigeants qui vont gagner le leadership congolais. Et les Congolais vont s'y mettre. Combien d'argent court entre les poches des Congolais
qui
pouvaient participer dans le contribuable congolais? C'est parce qu'on n'a pas confiance aux dirigeants. Et là, vous avez du mal à augmenter le budget.
Merci beaucoup.
Voilà ma vision des choses.
Merci beaucoup, Arsène. Ingénieur Kendi, vous êtes à nouveau en ligne?
Je suis en ligne.
Voilà, vous parlez tout à l'heure de la motivation des politiques.
Oui, je préfère d'abord répondre à l'intervenant qui vient d'achever en disant ceci. Ce que je le dis en connaissance de cause. Le matériel pour le captage de courant très haute tension continue pour être transformé en courant alternatif coûte extrêmement cher. Ce n'est pas le coût qu'il a donné là. Parce que moi j'ai vu la réfection simple d'un bâtiment qui abrite le groupe électrogène de la SNEL dans la ville de Kananga a coûté de plus d'$1,5 million. Alors qu'ils disent que les transports qu'on allait avoir, c'est pas un transport, les convertisseurs qu'on allait avoir coûteraient $900,000. Je crois qu'un seul Congolais mettrait la main à la poche et se doterait cette installation-là, ce qui n'est pas vrai. Ce sont des équipements qui coûtent extrêmement cher. J'ai dit que dans la première phase, la réalisation de ce projet doit permettre à l'exportation qui va nous donner des rentrées, les rentrées qui vont permettre à ce que toute notre population se retrouve. C'est ce que je dis. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait une définition et une mise en œuvre d'une politique du développement du secteur énergétique. Je passe en disant, maintenant j'attaque les politiques dont je parlais, je disais que les États-Unis est le partenaire privilégié de la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs, non seulement en électricité. Mais là, se pose un problème, ils ont des options qu'ils ont levées, nous disons que ce n'est pas fondé, parce que nous constatons malheureusement que l'impact environnemental des industries américaines est exagérément aberrant et que ces politiques américaines ne sont pas prêtes à arrêter ces industries qui mettent en danger la planète. Et c'est pas l'impact des Inga qui est minime, qui va poser problème.
Voilà.
Trouver des solutions appropriées et arriver à la réalisation de ce projet qui est salutaire pour l'économie de notre pays, qui est salutaire pour le devenir de notre population et qui est salutaire pour la position géostratégique de notre pays.
Voilà, si vous permettez, ingénieur Victor, on va juste prendre Gustave pour quelques minutes et puis bon, on va conclure avec vous. Gustave, bonjour.
Bonjour,
oui, vous êtes à Kinshasa. Gustave, vous avez la parole en 30-40 secondes.
Oui, en fait, la construction d'un barrage hydroélectrique demande beaucoup de choses. Il y a les infrastructures n'est pas toujours facile à faire par une seule entreprise. Donc, j'ai écouté beaucoup de gens dire que la RDC à lui seul ou à elle seule peut construire en ayant recours aux mains d'œuvre locales. C'est impossible. Parce que nous avons un problème au niveau du financement. Et jusque là, rien ne nous rassure que le gouvernement congolais est en mesure de mettre sur point tout ce que nous, le barrage peut demander. C'est ainsi que les États-Unis s'est basé beaucoup plus ici la base dont le grand contribuable c'est les États-Unis et la FMI qui a aussi une part importante dans ce financement. Mais le problème à notre niveau c'est que le gouvernement puisse rassurer les contribuables que d'une manière ou d'une autre il y a des mécanismes pour récupérer ce qu'ils auront à financer. Des fois, ça sera catastrophique. Oui. Nous sommes incapables de nous-mêmes, il faut qu'on
de s'autofinancer. Merci beaucoup, Gustave. Merci beaucoup, Gustave. Merci. Voilà, merci beaucoup, Gustave. Je ne sais pas, ingénieur Kendi, juste une phrase pour conclure cette émission. Juste une phrase.
Oui, je disais que la préoccupation, moi, à ma façon de voir les choses, à la manière d'analyser la situation, les ONG américaines n'ont pas peur de l'impact environnemental, mais plutôt de l'impact géostratégique. Parce que le Congo, avec cet outil-là, va avoir à sa traîne beaucoup de pays, et que peut-être serait difficile que les États-Unis contrôlent la situation dans ce pays-là, qui verrait dans le Congo un partenaire privilégié, un partenaire à privilégier, un partenaire à respecter.
Voilà, merci beaucoup ingénieur Victor Kendi. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en hydroélectricité. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. On dit également merci à vous tous qui avez suivi ces débats. Nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro. On va parler sport. La République démocratique du Congo est candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2019, et elle a déjà été retenue pour l'organisation de la CAN -23 en 2015. Alors selon les informations de notre possession, les préparatifs pour les deux compétitions traînent et les budgets pour cette fin toujours pas disponibles. Entre-temps, un groupe d'experts de la Confédération africaine de football est attendu en juillet prochain pour inspecter les infrastructures devant accueillir cette compétition. Alors, comment faire selon vous pour accélérer ces préparatifs? C'est le débat de demain. Prenez déjà rendez-vous avec nous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.